La meilleure chose qu'on a à trouver, c'est arriver à trouver la bonne distance avec son fils ou sa fille. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dire, c'est voir la personne derrière le malade.
Les troubles psy, c'est bien sûr d'abord l'affaire de celles et ceux qui vivent avec, les premiers concernés. Mais c'est aussi celle de leurs proches, famille, amis, conjoints, dont les vies aussi sont impactées.
Il y a quelques semaines, on vous a fait entendre les témoignages de personnes dont l'un des parents était bipolaire. Leur parole vous a beaucoup touché et on a reçu plein de commentaires très émouvants.
Cette semaine, on a tendu notre micro à Carole, Arnaud et Stéphanie, qui, eux, ont un enfant concerné. Ils nous ont parlé du moment du diagnostic, des difficultés à naviguer dans le monde complexe de la psychiatrie, du sentiment de solitude qu'ils ont parfois, mais aussi d'espoir, de fierté et d'amour.
Vous écoutez La Perche, le podcast de la Maison Perchée. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Nous sommes en duplex depuis la Corse.
Bastia, c'est ça?
Bastia, ouais, à côté Saint-Florent, exactement.
Et donc, nous sommes en duplex, nous, depuis la cave de la Maison Perchée, avenue de la République, toujours. Et comme d'habitude, dans notre studio éphémère, avec Anna, en compagnie de proches, cette fois, et non de jeunes concernés. Et donc, nous avons ce soir...
Autour de la table, Stéphanie, Carole et, en duplex depuis Bastia, Arnaud. Et on va aborder ce soir différents thèmes. Et notamment, on voulait parler avec vous de diagnostic et peut-être aussi d'hospitalisation. Donc on verra un peu comment, où la conversation nous mène aussi. Est-ce que déjà, avant de commencer, vous pouvez vous présenter et nous dire quand le trouble psychique a fait irruption dans la vie de votre enfant et donc dans la vôtre, Carole?
Mon fils Gaspard a 21 ans aujourd'hui. Il a vécu un épisode psychotique il y a 2 ans, le jour de ses examens de première année de faculté. Je l'ai fait hospitaliser. Il en est ressorti. Il y a eu plusieurs réhospitalisations coup sur coup. Ça a duré donc du 27 avril à mi-juillet. Et à partir de là, il n'est plus jamais retourné à l'hôpital. Il a été pris en charge par son papa, nous sommes séparés, qui lui a trouvé des boulots. Et puis il est rentré à Paris, il a retrouvé des boulots et cette année il a repris une fac, donc une première année dans une autre ville, avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'assurance aussi.
Ok, merci beaucoup. On va revenir sur ces différents points, ces différentes étapes peut-être. En tout cas, merci. Stéphanie, tu veux...
Bonjour, donc ma fille s'appelle Maya, elle aura 16 ans au mois de novembre. Et moi, je dirais que j'ai été alertée à partir de l'âge d'un an et demi, donc il y a presque 15 ans. Alors, j'ai sûrement été alertée parce que peut-être qu'en tant que fille d'eux, j'avais déjà un certain regard sur le trouble psychique. Donc, ma mère est bipolaire et a été diagnostiquée seulement vers l'âge de 60 ans. Et c'est vrai que donc ma fille, dès l'âge d'un an et demi, a commencé à faire des colères vraiment disproportionnées et surtout sans que j'arrive à en comprendre l'origine. En fait, elle avait beaucoup, beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et donc, dès l'âge d'un an et demi, j'ai commencé à l'emmener chez des psychologues. Et je l'ai faite hospitaliser la première fois quand elle avait 8 ans.
Ok, donc depuis très, très jeune, donc depuis... Beaucoup plus jeune, finalement, c'est deux expériences assez différentes. Carole, toi, c'était vraiment assez brutal, une entrée dans le trouble assez brutale vers
en fait,
à 21 ans.
En fait, il y a eu des prémices à l'adolescence, à l'âge de 16 ans. D'accord. Donc, il y avait quand même eu des prémices.
Il y a eu des prémices et ensuite une première crise psychotique à 21 ans. Et toi, ta fille, Stéphanie, donc depuis vraiment sa petite enfance.
Okay. Voilà, c'est ça.
Et Arnaud, depuis la Corse?
Mon fils, il a fait sa première crise, il avait 17 ans, c'était en 2011. Moi, j'étais en déplacement, sa mère m'a appelé, j'étais séparé de sa mère, hein, et elle m'a dit qu'il était seul dans sa chambre, il regardait le mur blanc, il ne savait pas quoi faire, il pleurait. Et quand je suis rentré de mon déplacement, je l'ai récupéré, et il était très, très perturbé avec des délires de persécution. Il avait fait quelque chose de mal, il ne savait pas quoi, c'était très grave. Et donc, avec une nuit très, très, très agitée, je l'ai gardé avec moi toute la nuit. Et je dirais, à l'issue de ça, le lendemain matin, on est allé passer des analyses de sang. Et donc, la personne qui faisait passer les analyses m'a vraiment alerté en disant, voyez rapidement un médecin, ce qu'on a fait. Et donc, derrière, elle a réussi à le faire dormir un peu. Et on a dû donc l'hospitaliser. Je dirais très rapidement suite à ça, quoi. Mais c'est monté, il n'y a aucun prémisse, on n'avait rien vu venir, et en 10 jours, j'accompagnais avec sa maman mon fils dans une clinique psychiatrique.
Vous avez eu des diagnostics, chacun d'entre vous, soit à ce moment-là, soit après, plus tard, comment ça s'est passé
Moi, j'ai eu un diagnostic posé par une pédopsychiatre, comme quoi il avait tendance à être bipolaire. Au dernier épisode, il y a 2 ans, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, je dirais au jour d'aujourd'hui qu'on n'a pas réellement de diagnostic parce que Gaspard n'a pas accepté de jouer le jeu avec les psys. Il n'a pas voulu rencontrer de psychiatre ni de psychologue. Et puis d'avoir lu des ouvrages, j'ai compris alors qu'au début, je pensais qu'il fallait à tout prix trouver des raisons et poser un diagnostic. Et en lisant des ouvrages, je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt prendre le temps. Alors après ça, il faut savoir que dans la famille paternelle de Gaspard, il y a déjà des cas de bipolarité. Enfin, il y en a sa tante directe et probablement son grand-père. Mais ça n'a jamais vraiment été dit. Le grand-père s'est enfui, on n'a plus de nouvelles, donc ça reste flou. Mais comme vous savez, hein, les secrets de famille, jamais révélés, toujours su. Et voilà, et peut-être que Gaspard est venu pour faire exploser tout ça, quoi. Mais donc pas de diagnostic réel.
Alors pour ma part, un diagnostic, parce que contrairement à Carole, je me suis battue pour avoir un diagnostic. Alors pas tellement pour avoir le diagnostic en tant que tel, mais parce qu'en fait, je voyais que ma fille allait droit dans le mur, qu'elle avait des comportements à risque, qu'elle se scarifiait, qu'elle s'était déscolarisée, qu'elle n'avait plus d'amis, plus aucun loisir, qu'elle, à plusieurs reprises, elle avait avalé des plaquettes de médicaments, dont une fois où elle était toute seule et heureusement, elle a appelé les pompiers. Donc, malgré le fait que les pédopsychiatres, en fait, ne prenaient pas la mesure de son mal-être, parce qu'en fait, quand elle est face à un psychiatre, elle lui dit que tout va bien, limite, elle lui fait des blagues. Et donc, quand j'arrive après et que je dis que je suis très inquiète, parfois, on a un peu de mal, à m'écouter. Donc, à force de recherches personnelles sur Internet, j'ai fini par entendre parler du Pôle Pépite et du CEJAD, qui sont 2 centres diagnostiques qui dépendent de Sainte-Anne et dont l'objectif affiché, justement, est de réduire le temps de diagnostic en France, qui est malheureusement énorme. Parce qu'en fait, avoir le bon diagnostic, c'est permettre à la personne d'accéder aux soins adapté, et donc c'est avoir de meilleures chances de rétablissement, et c'est éviter aussi d'aller trop loin dans le mal-être. Donc j'ai eu ce diagnostic, ma fille a eu ce diagnostic en septembre 2023, qui confirmait qu'elle avait un trouble de la personnalité limite, ou borderline, ce que moi je supposais déjà depuis au moins 2 ans. Et heureusement, le psychiatre qui la suit toujours a tout de suite pris en compte le diagnostic et a complètement changé sa médication. Et depuis, elle va beaucoup mieux. Et voilà, je suis très contente.
Le diagnostic a été assez libérateur, quoi.
Tout à fait.
Et juste, comment ça fonctionne ce centre ?
Alors en fait, c'est juste un centre qui pose un diagnostic. Alors normalement, c'est ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans. Ils posent un diagnostic et ils font une préconisation concernant le traitement. Et après, le psychiatre qui suit l'enfant suit les préconisations ou pas, mais en tout cas, il n'assure pas de suivi. Il se trouve que moi, ma fille avait déjà passé plein de bilans, donc ils lui ont rien fait passer de plus à part un entretien avec un psychiatre. Mais si, par exemple, l'enfant n'a pas eu de bilan neuropsychologique ou pas de tests qui peuvent aider à poser un diagnostic, ils peuvent proposer ces bilans et de manière gratuite.
Ok, bon à savoir. Arnaud ?
Oui, alors pour Vincent, il n'y a pas eu le diagnostic qui a été posé de suite. Il y a eu des hypothèses quand même qui ont été données, trois hypothèses. Soit un coup de tonnerre dans un ciel serein, et puis ça arrive qu'une fois, c'est un événement psychique. Soit la schizophrénie, soit la bipolarité. Et on n'a eu vraiment le diagnostic qu'au mois de mai, fin mai, début juin de l'année suivante, donc on était en 2012, où là, il a fait un épisode majeur maniaque. Voilà. Donc, il a fait l'autre côté de la bipolarité.
Et donc, maintenant, il est diagnostiqué bipolaire, c'est ça ?
Et là, en juin, donc il n'y avait pas photo. Hein. Deux oui. Épisodes majeurs en moins d'un an, un dépressif et un maniaque. Donc, diagnostic de bipolarité.
Ok.
Et comment vous l'avez vécu, ce diagnostic, avec votre épouse ?
Moi, je suis tombé de l'arbre. Je savais pas, je connaissais pas du tout les maladies psychiques. Deux, je connaissais pas du tout le monde de la psychiatrie. Il a fallu rapidement s'adapter. Personnellement, ça a été une phase très, très, très difficile. Et surtout, la phase maniaque où on a fait avec sa mère une hospitalisation d'office et on n'a pas pu le voir pendant 15 jours. Voilà. Mais pour son bien, hein, on a compris que c'était pour son bien. Mais bon, c'était très difficile à vivre. On avait les infirmières ou la cadre de santé qui nous tenaient informés de son évolution, de comment il allait, etc. Bon, donc là, c'était le premier coup. On commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'épisode dépressif. Une pédopsychiatre très très accompagnante, on a eu de la chance, qui a beaucoup parlé, qui m'a même reçu, qui a traité des choses au niveau familial aussi, liées au divorce. Et je dirais, après, on est tombé sur un autre psychiatre qui nous a reçus avec sa mère au bout de 15 jours pour nous dire le diagnostic, pour nous dire que ça ne se soignait pas. Et que je dirais que, par contre, on pouvait vivre avec et qu'il y avait un accompagnement à mettre en place. Je pense à un des passages clés pour moi. J'ai dit, si moi, j'accepte pas la maladie, comment je peux accompagner mon fils pour que lui puisse l'accepter, quoi. Donc, il a fallu prendre sur moi. J'ai consulté très rapidement un psychiatre pour moi, en dehors de ceux qui suivaient mon enfant, parce que j'avais besoin d'accepter. J'acceptais pas du tout au début, quoi. Voilà.
J'imagine que ça doit être un bouleversement assez énorme dans votre conception de la vie, en fait, enfin, de votre approche de votre enfant. Ça doit un peu bouleverser, beaucoup de choses. On apprend du coup la psychiatrie. Enfin, on rencontre en fait cet univers-là. Pour vous, comment ça s'est passé, du coup, j'imagine que Stéphanie, vous étiez déjà un peu au courant. Enfin, tu étais déjà au courant.
Alors. Pour moi, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que je cherchais désespérément de l'aide depuis des années, que avec l'adolescence, les comportements de ma fille sont devenus de plus en plus compliqués. Suite au premier confinement, il y a eu de plus en plus de violence parce que elle était tellement mal que malgré toutes mes démarches, on n'arrivait pas à trouver de professionnels qui puissent l'aider. Et si bien que moi, c'est plutôt l'inverse, c'est que je cherchais désespérément quelqu'un qui puisse nous dire votre fille a ce trouble et on va pouvoir vous aider.
Mais tu avais déjà fait un peu le
chemin,
enfin en termes de connaissances, tu t'étais déjà bien intéressée.
Je ne suis pas la seule, mais je sais que beaucoup de familles, dans mon cas, avec des enfants qui explosent à la maison, ont tendance à ressentir de la honte et on garde en fait tout ça un peu sous cloche dans la famille. Alors peut-être que c'est le fait d'avoir été toute seule avec ma fille depuis qu'elle est toute petite, mais en tout cas, moi, j'en ai toujours parlé à mes amis. J'ai jamais eu honte, au contraire, j'ai toujours... Enfin, je me suis toujours questionnée en me disant, mais il y a quelque chose, j'ai besoin d'aide. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté dans ma quête. Et j'ai aussi tout le temps été à la recherche, alors que ce soit sur Internet ou en écoutant des podcasts. En tout cas, j'ai toujours essayé de me former. J'ai fait aussi 2 formations de psychoéducation qui m'ont énormément aidée à comprendre le trouble, à comprendre ce que pouvait vivre ma fille et à accepter certaines choses, par exemple la déscolarisation. Donc j'ai beaucoup mieux vécu les choses grâce à ces formations de psychoéducation.
Ça me frappe tous les deux, Arnaud et Stéphanie, vous avez cherché de l'aide. Est-ce que, Carole, c'était aussi ton cas? Est-ce que t'as reçu de l'aide? Tu l'as cherché?
Moi, je vais voir un psy. Et je le lâche pas. Quelqu'un qui a travaillé à Sainte-Anne pendant 20 ans, enfin qui connaît bien les sujets et avec qui je m'entends bien. Donc, au départ, j'avais trouvé cette personne par l'intermédiaire d'une amie qui est dans le métier pour Gaspard. Mais comme il a jamais voulu aller le voir, ben c'est moi qui y vais, quoi. Et je continue et je dis, puisque Gaspard a un frère aîné. Et j'oublie jamais de leur dire à tous les deux que je vais voir le psy. Donc Gaspard, comme vous l'avez compris, est plutôt dans une forme de déni de sa situation, ne veut pas de médicaments parce que le peu de médicaments qu'il a pris l'ont vraiment bouleversé. Il a vraiment subi des travers... qui l'ont effrayé, hein, où il se voyait ne plus appartenir. Je dirais que la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit « mais il a peut-être pas tort de ne pas vouloir prendre de médicaments », c'était chez UNAFAM, et ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça.
Donc l'UNAFAM, peut-être que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est.
Donc une structure qui existe depuis, 1955-1960, monté par des proches qui aident les proches et les gens atteints de troubles à trouver des solutions sans pour autant être contre les examens cliniques. C'est aussi des gens qui vont chercher des solutions ailleurs et qui sont pas toujours considérés par les structures hospitalières parce qu'ils viennent un peu troubler l'ordre établi.
Donc on a parlé de l'UNAFAM, du Pépites, du pôle Pépites, etc.
Pépites,
on mettra les références de tout ça dans la description du podcast. Peut-être que vous pouvez parler aussi de la Maison Perchée, parce que vous participez à des groupes de parole à la Maison Perchée. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot?
Oui, moi je suis animateur d'un groupe de parole à la Maison Perchée depuis l'année dernière. Donc ça apporte beaucoup, les groupes de parole. Moi, ça a été très fort. J'étais allé avec Vincent donc à Martigues. Il y avait un groupe de parole qui se réunissait. Donc j'y suis allé. Et quand c'est devenu à mon tour de me présenter, ben j'ai fondu en larmes parce que je pense que c'était quelque chose d'arriver à dire ben voilà, mon fils est malade, mon fils est maladie psychique, etc. Ben ça a permis aussi à pour moi de définitivement je veux dire accepter et le fait d'être à ce groupe de parole et le dire et m'entendre le dire, ça a été très thérapeutique, quoi. Voilà. Et donc moi je pense que le groupe de parole, c'est de redonner de l'espoir parce que souvent les personnes qui viennent, que ça soit avec les médicaments, que ça soit avec les psychiatres, que ça soit avec les hôpitaux, que ça soit avec les proches, que ça soit avec beaucoup de choses, on a du mal à savoir où on en est. Et avoir juste des témoignages de personnes qui vivent la même chose que nous, qui rencontrent les mêmes difficultés, qui ont mis des choses plus ou moins originales ou différentes, ou qui ont trouvé la bonne distance, ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que je, modestement, moi, j'essaie d'apporter à travers le groupe de parole que j'anime. Et puis, bon, moi, c'est ce que j'ai reçu des autres quand j'étais juste participant dans les groupes de parole.
Et moi, j'ai une question, Arnaud. En tant que père, je sais que nous, on a souvent plutôt rencontré des mères, même à la maison perchée, dans le lieu. Les proches que j'ai vus, c'est plutôt des mamans, des mères. Donc toi, comment tu te positionnes et comment tu approches parfois d'autres pères qui ont du mal à en parler ou qui arrivent du coup pour la première fois ou qui sont au début de l'acceptation? Voilà, est-ce que tu as un message ou en tout cas un témoignage de...
Moi, personnellement, je pense pas que c'est une question de genre. Je pense que c'est nos enfants et...
Enfin, pourquoi on retrouve si peu de pères, en tout cas, dans les...
Ouais, non, mais je pense que... Bon, on l'a à travers nous trois. On est tous séparés, divorcés, etc. Moi, la mère de Vincent, elle est présente dans la vie de Vincent. Elle est très présente, etc. Par contre, elle ne sent pas d'aller dans les groupes de parole. Elle ne sent pas d'aller dans les événements. Moi, j'y vais parce que j'y trouve... J'ai besoin de ça. Et je pense que je vais chercher, je dirais, ce partage et cette communauté. Voilà. Peut-être aussi en réaction ou dans la vie normale, dans la vraie, j'aime pas ce mot normal, hein, mais dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, eh ben on n'a pas de lieu, mis à part qu'on va voir son thérapeute, où on va parler de ça parce que les gens ils sont compatissants, la famille proche, mes parents ils ont eu du mal à accepter, mais ils y sont venus et ça a été très beau aussi. Mon frère il est resté très loin. Donc, à un moment donné, je pense que cette notion de communauté, de partage, de vie est quelque chose de très important. Moi, je pense que les pères, ben, des fois, est-ce qu'ils prennent leur place? Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'on leur donne la place? Je sais pas. J'ai du mal à me positionner là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans les groupes de parole, c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de mères. Il y a des sœurs aussi. Des enfants aussi. Et je pense que, nous, en tant que parents, je préfère parler comme ça, ben, c'est nos enfants, on sera toujours là, on sera toujours présent, on va rien lâcher, quoi. Et si on peut trouver aussi un moyen, à travers le groupe de parole, la meilleure chose qu'on a à trouver, c'est arriver à trouver la bonne distance avec son fils ou sa fille. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dire, c'est voir la personne derrière le malade. C'est arriver à voir la personne derrière le malade et pas que le malade. Voilà. Et ça prend un temps certain, un certain temps, et les groupes de parole contribuent à aider à voir ça. Et quand on revoit la personne, on enlève la maladie, et c'est des moments extraordinaires et la personne le reçoit beaucoup plus, quoi. Mmh.
Vous partagez cette expérience, Stéphanie et Carole, de l'apport des groupes de parole et peut-être aussi de la difficulté d'en parler avec d'autres gens?
Alors, pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas forcément de difficulté à en parler avec les autres gens. La difficulté, c'est que malgré toute la bonne volonté dont peuvent faire preuve mes amis, il y a évidemment des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre puisqu'ils ne les ont jamais vécues. Je pense même qu'à certains moments, ils ont eu du mal à croire ce que je leur racontais. Et c'est vrai que l'avantage de la maison perchée, c'est que on a même pas forcément besoin de se parler, on sait qu'on vit un peu tous la même chose, que voilà, c'est un cadre vraiment bienveillant, sans jugement, où on se sent accueilli comme on est, là où on en est. Et moi, je trouve que c'est un endroit qui est vraiment porteur. Souvent, quand j'arrive, je suis parfois un peu triste, un peu découragée, et quand je repars, je me sens toujours mieux. Mieux parce que j'ai fait de nouvelles rencontres où j'ai croisé des gens que je connais déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines et qu'ils sont toujours heureux de me rencontrer malgré toutes les difficultés de vie que ces personnes peuvent traverser. Mmh. Voilà. Mmh. On est toujours accueillis avec un grand sourire à la maison perchée.
Et beaucoup d'écoute.
Beaucoup d'écoute.
On vient recharger un peu les batteries d'énergie dont on a besoin pour affronter ces questions, Carole.
Je dirais aussi beaucoup d'humour. Moi, quand j'ai envoyé un mail à la Maison Perchée la première fois, donc déjà j'ai eu une réponse instantanée. Et le lendemain, j'ai reçu un message avec tous les supports existants dans le Wiki Perchée. Et avec beaucoup d'humour, bonjour, on est là, très encadrant. J'ai des amis qui ont suivi le truc aussi, mais qui comprennent pas forcément parce que c'est comme ça. Et sinon, au niveau de ma famille, tout le monde m'a tourné le dos. Donc, retrouver une chaleur humaine à la Maison Perchée, c'est très agréable. Et j'en parle à qui en a la nécessité. Mmh. Absolument.
Et t'as dit que Gaspard avait un frère.
Un frère aîné, ouais, 16 ans d'écart. Hein.
16 ans d'écart. Et je sais pas si les autres aussi ont s'il y a des frères et sœurs, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment ça impacte la famille au sens plus large.
Il y a une solidarité entre les frères, mais je dirais que mon fils aîné, flagramment, il a peur des hôpitaux psychiatriques. Donc il éprouve, il y a de la tendresse et de l'amour pour son frère, mais je peux pas compter sur lui.
Il se protège.
Ouais, il se protège. Mmh. Voilà. Et c'est respectable, surtout. Parce que il y a quand même l'amour, l'attention, mais pour lui, c'est pas possible d'aller dans un hôpital psychiatrique, quoi. Et, par exemple.
Mmh. Et du côté de Vincent, enfin, du Arnaud, toi, est-ce que sur le rapport avec le reste de la famille.
Vincent, il a pas de frères et sœurs en direct. Par contre, famille recomposée de mon côté. Donc il a des sœurs de cœur, comme il dit, hein, qui sont les filles de ma nouvelle femme, d'accord, qui sont très proches aussi avec lui, hein, je dirais qu'on a une relation classique de jeunes de cet âge, quoi, hein. Par contre, Vincent, je pense que lui, là, ce qu'il a, une belle réussite qu'il a mis en place, c'est qu'ils étaient une bande d'amis du collège et ils sont restés très 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 soudés. Et ça, pour lui, c'est vraiment son vrai point d'appui, c'est ça, quoi. Hein? Et même en train de regarder, je dirais, là, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est malade, il va bientôt avoir 30 ans, et bien en train de regarder avec ses amis d'enfance comment... demain ou après-demain, le plus tard possible, j'espère, ils prendront mon relais, quoi, hein, et le relais de sa mère pour, je dirais, être à côté de lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Et comme quoi, c'est pas forcément les liens de sang qui fonctionnent, ça peut être les liens d'amitié et des jeunes qui. Excusez-moi, je suis ému. Quand t'es présent à ce moment-là. Voilà.
Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui fait qu'on peut tenir, quoi, avec le temps, la famille, les amis. En tout cas, ça me touche aussi énormément, ton témoignage. J'espère que j'imagine que je suis pas le seul. On va revenir à un de nos thèmes du jour, du coup, l'hospitalisation. Et notamment, éventuellement, la question de l'hospitalisation sous contrainte. Si vous avez des choses à dire sur ce sujet.
Alors, ma fille a été hospitalisée 4 fois, si je n'en oublie pas. Les 2 premières fois à ma demande, alors pas vraiment sous contrainte parce qu'elle était encore toute petite. Enfin, la première fois à l'âge de 7 ans et demi, la deuxième fois, elle devait avoir 12-13 ans. Donc, à ma demande, parce que je n'y arrivais plus. Parce que elle ne dormait plus, elle m'empêchait de dormir, elle faisait des crises extrêmement violentes et que j'avais beau essayer de mettre en place tout ce que je pouvais, j'avais beau essayer de me préserver, il y a un moment où, quand en plus on est seul à gérer le quotidien, eh bien on n'y arrive plus. En tout cas pour ma part, c'était le cas. Donc la troisième fois, elle devait avoir 14 ans. Et là, c'était à sa demande. Suite à un changement de traitement, elle a eu des phénomènes de déréalisation, beaucoup d'angoisse. Et elle a commencé à se déscolariser. Et elle était tellement mal qu'elle m'a demandé à être hospitalisée. Cette fois-ci, elle est restée 3 semaines. Mais voilà, ça n'a pas fait avancer les choses. Et la dernière fois, c'était quand elle avait 15 ans, à la maison de Solène. Parce que le psychiatre qui la suit depuis maintenant environ 1 an et demi, 2 ans, est en partie à la maison de Solène. Et donc, à ma demande, il a demandé à ce qu'elle soit hospitalisée. Alors, c'était complètement différent des premières fois parce que, comme elle avait un traitement médicamenteux, il y avait quasiment plus de violence à la maison. Donc, ça, pour moi, on va dire qu'en tant que maman, c'était plus facile. Mais je voyais que ma fille s'enfonçait dans un désespoir total, hein, puisqu'elle n'avait donc plus d'activité, plus d'amis, qu'elle n'allait plus en cours depuis environ 1 an, 1 an et demi, et que dans sa tête, ça y est, sa vie était finie, c'est-à-dire qu'elle n'arriverait plus à aller en cours, elle n'arriverait plus à avoir d'amis, et que bah voilà, toute sa vie, elle resterait avec sa maman à la maison. Et donc, le pari, c'était de la faire hospitaliser pour qu'elle s'aperçoive que bah, finalement, elle arrivait à renouer des contacts avec des jeunes de son âge. En plus, l'avantage de la maison de Solène, c'est que certains profs donnent des cours là-bas et que on lui a dit à chaque fois « Ah, mais tu as un super niveau !» Alors qu'elle, elle était persuadée de ne plus jamais réussir à pouvoir apprendre quoi que ce soit. Donc en fait, ça lui a permis de reprendre espoir en la vie, tout simplement.
Peut-être, Carole, est-ce que tu veux parler de comment toi t'as vécu l'hospitalisation de Gaspard ?
Comment dirais-je ? Sur le moment, c'est quand même secourable. Enfin, c'est une structure qui permet au moins de dormir la nuit et de peut-être objectiver un peu les choses. Après, quand on se retrouve dans un cadre où il y a très peu d'activité, où il y a des gens délirants, c'est plutôt glauque. Donc c'est très effrayant. Après, quand on voit que son enfant est sécurisé parce qu'il est là-bas, on change un peu d'opinion sur le système hospitalier. J'ai rencontré des infirmiers et des aides-soignants extraordinaires. En tout cas, j'ai jamais regretté d'avoir fait hospitaliser Gaspard.
Mmh. Arnaud ?
C'était quelque chose, pour moi, d'absolument nécessaire sur les 2 épisodes qu'il a vécu au début, que j'ai raconté tout à l'heure. Parce que le premier, il était dans une crise panique complète. Donc c'était invivable. Et le deuxième, il était parti tellement loin qu'il dormait 2 heures par nuit, quoi. Donc moi, j'étais sur les rotules, sa mère aussi, et on pouvait pas faire autrement, quoi. Et bon, la chance qu'on a, c'est que j'ai plus de 10 ans maintenant et on n'a pas eu à reconnaître d'autres hospitalisations. Donc on a finalement eu que 2. Et bon, moi, je suis très fier de mon fils par rapport à ça. Et par contre, on a mis en place, et ça a été des moments clés, surtout quand il montait. La première fois, je l'ai accompagné, on est allé aux urgences parce que le psychiatre n'était pas disponible, parce que c'est des fois compliqué d'avoir un rendez-vous rapidement. Donc, on allait aux urgences psychiatriques à Martigues. Donc, la première fois, je suis l'accompagné parce qu'il avait très peur d'être réinterné, quoi. Hein. Et finalement, ça s'est bien passé. Il a bien posé, il a bien expliqué que ça montait depuis quelques jours. Et donc, on a réussi à... Il lui a donné un traitement pour, par rapport à ce qu'il avait pour, je dirais, arrêter la montée de l'épisode maniaque. Et tout ça en lien avec le psychiatre traitant là, qui le suit, qui est le chef de service de l'hôpital de Martigues. Donc, son dossier étant là-bas, ça se passe très bien. Quoi. Et là, maintenant, il y est retourné 3-4 fois où il sentait que ça montait, où il était sur des débuts d'épisode. Et ça a été suffisant pour qu'il puisse arrêter la montée, et soit directement aux urgences quand le psychiatre n'est pas disponible, ou soit un rendez-vous rapide avec le psychiatre pour ajuster le traitement.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des parents dont un des enfants, ou des enfants d'ailleurs, sont concernés par un trouble psy, que vous auriez peut-être aimé entendre, ou en tout cas des parents qui, peut-être comme vous, peuvent connaître un certain isolement?
L'amour sauve de tout. Vraiment. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est quelqu'un qui m'a dit ça et ça m'a beaucoup aidée.
On me l'a dit aussi. Et je crois que j'y crois aussi.
Ouais.
Au début, j'avais du mal. Je trouvais ça un peu cucu. Et en fait, je crois que c'est vrai.
Et par ailleurs, Gaspard m'a toujours obligée à réfléchir sur moi. Et en fait, l'histoire de sa problématique maladie continue de me faire avancer, moi. Mm-hmm. Vraiment.
Donc ça a fait grandir aussi, ça construit.
Oui, absolument.
Mm-hmm. Alors, je suis assez d'accord avec Carole. Effectivement, je trouve qu'être parent, c'est la plus belle aventure qui soit et que ça nous fait progresser en même temps que nos enfants. Et moi, si j'avais un conseil à donner, c'est surtout de ne rien lâcher. Que si vous rencontrez des professionnels qui ne vous prennent pas au sérieux ou qui sont maltraitants avec vous, eh ben, c'est pas grave. Recommencez à chercher ailleurs, plus loin. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais il faut quand même que j'en parle. Une des personnes qui est aussi pour beaucoup dans le fait que ma fille commence à se rétablir, c'est sa psychologue qu'elle consulte une fois par semaine depuis décembre 2022, qui est neuropsychologue spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, et qui l'a vraiment beaucoup aidée à prendre conscience de ce qui pouvait être compliqué pour elle et qui l'aide beaucoup à mettre en place des stratégies et à progresser. Et elle a vraiment une confiance totale en elle. Pour preuve, c'est que dans son micro-lycée, elle devait choisir une personne de référence pour l'accompagner dans sa scolarité et qu'elle a choisi sa psychologue.
D'accord, donc persévérer dans la recherche des bons professionnels, des bons accompagnants. Ok. Merci Stéphanie.
Moi, ce que je pourrais dire aux parents, c'est que faut pas avoir peur, ce qui est très compliqué. Et moi, c'est un ami qui m'a aidé. Il m'a dit, il faut que ton fils travaille, mais il faut qu'il bosse, il faut qu'il ait une activité. Je dis ouais, mais je suis pas sûr qu'il soit prêt, je suis pas sûr qu'il va y arriver, je suis pas sûr qu'il soit là à la hauteur. Et finalement, il a dit, bah, je te le prends, il va bosser. J'ai l'opportunité, puis on va avancer comme ça. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille. Et il est rentré, je dirais, du lycée, il est passé dans le monde professionnel en un an, quoi. Au bout d'un an de soins. Et ça a été très structurant pour lui. Ça a vraiment redonné, je dirais, de l'espoir. Autre chose, il a passé son permis de conduire. Quand il est ressorti de son permis de conduire, il a réussi le code. Il a dit ça va, c'est bon, je suis pas fichu quoi. Donc c'est des petits éléments comme ça. Je vais dire aux parents, pas surprotégés quoi. Confrontez-les, accompagnez-les. Ils ont une vulnérabilité, mais faut qu'il y ait du frottement, faut qu'ils soient dans une vie normale. J'aime pas le mot normal, mais c'est une vie où ils soient confrontés aux réalités. Mais en ayant un filet de sécurité, mais pas trop présent et mais pas les mettre sous un bocal, quoi. Et puis, je vous rejoins toutes les deux, faut leur dire, moi je fais souvent avec mon fils, faut leur dire qu'on les aime, et puis qu'on est toujours là pour eux, et puis qu'ils sont responsables, et qu'ils font plein de trucs par eux-mêmes, et puis bon, que nous on s'efface tranquillement, et puis si on a besoin, on est là, quoi. Voilà. Et donc, c'est vers ça qu'il faut tendre, vraiment vers cette autonomie, quoi. Il est seul, il est dans son appartement, il est installé, il bosse, voilà, il a ses amis, il est vulnérable, mais sa vie est belle. Et je l'aime.
Mais c'est beau, c'est beau.
C'est beau, c'est hyper beau.
Tu vas encore nous faire pleurer. Hein,
ouais, ouais.
Arrête.
Mais je pense que c'est un peu... Enfin, pour résumer, ça, genre ne pas infantiliser ses enfants, quoi. Enfin, apprendre à ne pas trop les infantiliser. En tout cas, quand ils sont adultes et avec un trouble, donc accepter leur vulnérabilité, mais en les poussant, quoi.
Leur faire confiance et soutenir leur projet, même si nous, ça nous semble irréalisable.
Ouais.
En fait, c'est en soutenant leur projet qu'ils vont réussir à en réaliser certains et qu'effectivement, grâce à l'espoir et à l'estime de soi qui va remonter, ils vont être capables de faire...
Il faut y croire, voilà. Donner un peu d'énergie, d'engrais, quoi, dans l'espoir en fait, qui est derrière. Quoi. Il y a toujours un espoir, peut-être que parfois il est un peu enfoui, mais il est là, quoi. Et voilà, un petit mot pour la fin.
Oui, je dirais une dernière chose aussi, c'est le groupe de parole à la Maison Perchée qui m'a fait comprendre ça. C'est aussi changer le regard des gens soit dit normaux, entre guillemets. Et je trouve que la Maison Perchée contribue aisément à ça. Et voilà.
C'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast aussi. Donc,
là, c'est parfait.
On partage. Ouais. Bah, merci beaucoup à tous les trois et à toi Sylvain, comme d'habitude.
Ouais. Merci
pour ce
Arnaud,
beau moment.
Depuis la Corse.
Au plaisir.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était La Perche, le podcast de la Maison Perchée, réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault, avec une musique de Blasé et Michael.
On espère que cet épisode vous aura plu, touché, voire même inspiré.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait chaud au cœur. Si notre démarche vous touche, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou des mots doux en commentaire sur les plateformes d'écoute.
Et à bientôt pour un nouvel épisode.